Spécial. Je suis heureux d'avoir été invité à Umaco. Je vais laisser Isabelle présenter, puis ensuite je vais vous demander de vous présenter individuellement. Qu'est-ce que vous avez présenté aujourd'hui et votre profil.
Donc Umaco, c'est un projet qu'on a monté avec des doctorants dans le cadre de la structure fédérative de recherche, puisque c'est un espace en fait où on est plusieurs laboratoires de différentes disciplines, et on s'est rendu compte qu'on travaillait tous, enfin que plusieurs d'entre nous travaillaient sur la thématique du numérique et de l'utilisation des outils numériques. Et en fait, on a eu l'opportunité, mais d'ailleurs c'est Cynthia qui m'a fortement poussée à répondre à un appel à projet. Donc on s'est mis en contact avec Grégory Alexander et avec Majam Marcon pour monter ce projet, dont l'objectif c'était vraiment de créer un espace d'échange interdisciplinaire dont l'objectif c'était de mettre l'humain vraiment au centre. Et c'est pour ça que la question qu'on se posait, c'était comment l'humain évolue-t-il avec la société numérique et non pas dans la société numérique, puisque on veut vraiment montrer cette évolution conjointe de l'humain avec les technos, mais en focalisant vraiment sur l'humain.
Ingrid.
Donc bonjour à tous, Ingrid, donc une habituée et qui travaille beaucoup en sécurité numérique, intelligence artificielle, mais qui pousse l'intelligence humaine, parce qu'en fait, il n'y a que ça de vrai.
Bonjour, Cynthia Lopez-Bagus, je suis doctorante en psychologie cognitive et ergonomie, je m'intéresse à la pensée future. J'ai d'ailleurs créé un collectif avec Thomas Wieserski qui s'appelle Esprit Futur et qui était un petit peu dans la même tendance qu'Umaco, puisque c'était donner un espace de discussion sur les visions du futur, mais de manière interdisciplinaire. Mon intervention a porté aujourd'hui sur le narratif et l'immersion dans les récits de science-fiction pour imaginer et penser l'avenir.
Bonjour, je m'appelle Christine Dugoin-Clément, je suis docteur en sciences de gestion. Je suis chercheur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Observatoire de l'IA, à la chaire risque de l'IAE de Paris et au CRGN. Et mes travaux portent principalement sur tout ce qui va être opération informationnelle, modification comportementale et toutes les nouvelles technologies qu'on va déployer, que ce soit pour s'en prémunir ou pour les déployer. Et je viens avec une spécialité géopolitique centrée sur l'Europe de l'Est.
Tout ça est impressionnant. J'ai l'air pas mal tout nu par rapport à mon pedigree, par rapport à votre profil académique. Aujourd'hui, c'était une journée très intéressante puisqu'on a abordé le cyberespace et on a abordé la fiction, justement, comme mentionné. D'ailleurs, le terme cyberespace est né d'une œuvre de fiction, le Neuromancer en 1984, qui est vraiment le démarrage où tout le concept de cyberpunk est né. Donc, on est dans un contexte où le futur imaginé est, on est en plein dedans, dans l'univers qu'on est, et l'œuvre cinématographique équivalente, qui est la Matrice, en fin des années 90, représente essentiellement cette idée-là de vivre dans un monde de cyberespace. On a abordé la Russie ce matin, on a abordé comment utiliser la fiction pour nous aider, tous ces éléments-là. Je vous lance un peu la balle. Comment on peut imaginer le futur tout en étant présent et comment on peut exécuter ça, puisqu'on vit dans le futur à l'heure actuelle qui a déjà été imaginé par d'autres personnes, ou même à la limite 1984, parce que ce qui est en train de se passer au moment où on enregistre, 1984 est en train de se matérialiser devant nos yeux, un peu effrayé à certains égards. Fait juste voir comment vous vous situez par rapport à ça. Bousculez-vous pas là, quand même.
Alors, je vais prendre l'aspect cognitif, puisque comme ça, au moins, l'homme va délier les langues. Effectivement, on utilise la fiction pour imaginer l'avenir. Et l'avenir, c'est le temps futur. C'est ce temps qui n'existe pas encore et qui est assez extensible. On peut imaginer le futur dans la seconde d'après. Voilà, ça y est, maintenant, le futur d'il y a une seconde est déjà mon passé. Ou dans un temps un peu plus long, et c'est un peu plus complexe sur ce temps plus long, ça demande beaucoup plus d'efforts pour envisager des alternatives et des cheminements, des bifurcations temporelles, on appelle ça en psychologie. C'est tout ce qui pourrait se passer à un moment donné et quel chemin on prend, quelle bifurcation on peut prendre sur une réflexion.
pour notre part, un des points de ce que l'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de regarder ce que l'on a sur les éléments passés, récents ou proches, puisque ce que je viens de vous dire, ça fait déjà partie du passé à la fin de ma phrase. Mais on va essayer de repartir de ces éléments-là pour avoir une probabilité de comportement d'acteur. Et ça, c'est quelque chose qui sera peu ou prou compliqué à faire. Alors, donc, la géopolitique, notamment, ça va servir à ça et on va être par nature transdisciplinaire. Et derrière, quand on va essayer de concevoir notamment des technos ou de la technologie militaire ou des approches qui se veulent dites doctrinaires, on va penser au minimum sur du 30 ou 40 ans en fonction de différents éléments, la probabilité de survenance, la probabilité du risque et voire des risques inattendus de différentes natures. Donc ça, c'est les éléments qu'on va essayer de prendre en compte. Voir, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir quasiment de la prophétie pas loin d'être autoréalisatrice, puisqu'à partir du moment où on va avoir des textes qui vont être considérés comme étant des documents cadres, quels qu'ils soient, la nature et l'amplitude de leur diffusion va participer à dessiner, en tout cas, une ligne de tension, ce qui rend moins imprévisible cette bifurcation temporelle, puisqu'on va par là faire un système de crafting, de tailoring, de ce que l'on va donner, que ce soit en termes de direction, de recherche ou ce type d'approche-là. Il y a un exemple qui est assez amusant comme ça, on en parlait tout à l'heure un petit peu entre nous, c'est si on regarde quelque chose qui était de la science-fiction certes ancienne, à savoir Frankenstein, aujourd'hui ça s'appelle de la greffe, ni plus ni moins. À partir de quel moment finalement des éléments qui sont soit de la science-fiction avec une probabilité et une tension, quelle est votre finalité au cas particulier? C'est dépasser la mort. Effectivement, quand on va greffer, on va soit dépasser la mort, soit arriver à. Et qu'est-ce que l'on a dans les bassins culturels qui permettent de le faire? Donc c'est pour ça que la science-fiction est intéressante, mais elle ne n'est pas de nulle part. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que de la science-fiction, par exemple, ou autre, va dépendre de son bassin culturel. Si on a des gros lecteurs de science-fiction, c'est toujours très intéressant de regarder des auteurs qui n'ont pas une influence, par exemple, très nord-américaine, ou qui vont avoir une approche différenciée, de voir quels sont les points d'intérêt, quelles sont les lectures et quels sont tout ce que l'on pourra lire en subliminal, que ce soit d'un point de vue organisationnel, social ou conceptuel.
À partir de là, puis Ingrid a fait la mention tantôt au niveau de l'analyse de risque, puis ces éléments-là vont venir s'insérer dans l'analyse de risque. Comment on est capable de reprendre tout ça puis de faire matérialiser l'analyse de risque et voir dans un contexte d'anticipation légale, parce que le droit européen, à bien des égards, essaie d'être à l'avant-garde, mais en aucun cas, ce statut n'est anticipatoire par rapport à ce qu'on peut voir dans la fiction, dans ce genre de choses-là, où on pourrait avoir comme... Je vois ton... J'aime bien... J'ai chatouillé, vas-y.
Bah, c'est-à-dire que le droit va déjà être en réponse à des choses et à des risques qui ont été déjà identifiés. C'est-à-dire que pour réguler, puisque le rôle du droit, c'est de réguler une société et les interactions entre acteurs, il faut savoir que les technologies sont conçues par des humains et utilisées par des humains ou fonctionnent à proximité d'humains. Donc, à un moment donné, elles auront un effet sur l'humain. Et donc, la question va se poser, c'est s'il y a un effet sur l'humain et que ça cause du tort à l'humain, comment je répare? C'est le flou, quoi. Comment je répare tout ça? Et donc, en fait, le droit va être plutôt a posteriori et va pas être trop basé sur la science-fiction, puisqu'il doit se baser sur des faits, puisqu'il doit répondre à une évolution sociétale. Et en fait, on est en train de vivre non seulement une évolution sociétale, mais une transformation sociétale. Et pour moi, l'intérêt aussi de travailler avec la science-fiction et tout ce qui est fiction, c'est qu'il faut libérer la parole. Parce que si je veux un droit qui soit bien construit, si je veux des pratiques, si je veux des technologies qui conviennent à des enjeux sociétaux, donc des technologies avec utilisateurs tant qu'à faire, hein, parce que sinon le business model va vite s'effondrer. Business, ça pilote beaucoup de choses, hein, l'argent quand même. Et donc, à un moment donné, c'est de se poser les questions, de libérer la parole. La fiction peut permettre d'aborder différents enjeux qu'on s'interdit quand on est dans le quotidien, dans la pratique, parce que finalement, on ne va pas forcément aller sur la peur, parce qu'il y a des scénarios de fiction qui vont aller cultiver les peurs mais, et la catastrophe. Mais bon, en même temps, en imaginant la catastrophe, je prépare des réponses pour pouvoir prévenir la catastrophe et gérer le risque. Mais il y a aussi le comment. Aborder le comment, comment j'imaginerais, comment je ferais, comment ça n'existe pas encore, mais finalement, donc j'interroge. Et ça permet aussi de s'interroger sur l'acceptabilité de certaines choses, de certaines pratiques. Et c'est plutôt sain. Et heureusement qu'on a des personnes qui sont en capacité de pouvoir faire des narratifs qui nous aident à nous projeter, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de visualiser un futur. C'est pas forcément évident pour tout le monde d'imaginer une pratique, un besoin. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ce qu'on me propose ? Parce que je suis tellement aussi dans le flux informationnel qui va me dire que ça, c'est top du top, magique, marketing, paillettes, new age et compagnie. Enfin, jusqu'où, hein, parce qu'il y a un côté déraisonnable des fois dans certaines pratiques. Mais là aussi, je trouve que c'est déraisonnable, ça c'est personnel, qu'en pense la société. Où est la limite ? Donc, à un moment donné, je pense être bien intentionnée, mais d'autres pensent que je suis mal intentionnée. Donc, à un moment donné, quelle est la malveillance et à quel moment je franchis les barrières et les frontières de l'acceptable ? Et donc, la fiction permet de pouvoir se projeter dans des situations beaucoup plus facilement que des fois en tant qu'individu.
Ouais. Je viens dire, enfin parce que j'adore le parallèle avec Frankenstein, j'aimerais dire que j'adorerais croire que 1984 se passerait comme Frankenstein et qu'on aurait un impact positif finalement de ce que cet homme nous a proposé. Malheureusement aujourd'hui, je crois que c'est pas trop dans cette intention-là qu'on va. Mais justement, ce que je trouve, ce qui ressort de ces réflexions, c'est en fait quelle est l'intention derrière Frankenstein. Peut-être que cette fiction, elle nous a permis de nous projeter sur si on l'utilise avec des intentions peut-être de construire une bête, ou enfin on peut avoir des conséquences négatives, mais la question c'est dans quelle intention on va construire notre relation avec les technos. Je pense notamment à l'IA, enfin voilà, tout ce qui évolue en ce moment, parce que ça va être fondamental sur les retombées, et ça peut être un impact, selon moi, très positif, comme la greffe l'a été pour la médecine.
C'est effectivement amené ailleurs, mais en même temps, puis là, je rebondis sur, parce que j'aime ça rebondir, mais je rebondis croche, fait que ça va.
Ouais,
ça
mais
va.
En général, c'est toujours sur moi.
Ça va bien, oui, mais c'est parce que l'aspect légal est fort intéressant, puis c'est parce que ça ramène des conversations que j'ai eues en aparté sur le fait qu'on est en train de transformer la notion légale tranquillement. Il existe à des endroits maintenant que les corps inanimés, dont les lacs, ont une existence légale. On parle de l'intelligence artificielle, puis vous êtes un peu tout là-dedans aussi, un peu l'intelligence artificielle va devenir dans un élément éventuel, et à quel point on va être capable de dire que l'intelligence artificielle a une intention et comment on va arriver à légiférer ou à regarder ça, ce genre de choses-là. Ah, allez. Alors rebondis à ta place.
Non, je ne rebondis plus, je n'ai plus l'âge, mes rotules ne le permettent pas. Il suffit. Alors, il y a quand même un gros piège et un gros miroir aux alouettes pour moi là-dedans. À l'instant où l'on parle, quand on va parler d'une IA, on est sur des systèmes algorithmiques mathématiques. On va avoir des IA qui fonctionnent par un principe de renforcement. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir est la réaction de l'IA, et notamment quand on va parler de LLM, il préfère quand vous êtes poli, ah bah il est stressé. Non, vous avez un système de miroir par rapport à la réaction que vous allez impacter et qui est demandée. Donc ce n'est pas finalement ce que vous voyez, ce n'est pas le stress de l'IA, c'est le potentiel stress que la société va avoir sur cet élément-là qui a été récupéré dans la production que vous aurez au niveau de votre IA. Une IA et un LLM notamment, alors on verra ce que ça donne pour d'autres choses, et on pourrait parler des systèmes en black box où on a différentes approches, mais à l'instant T, au moment où le texte se crée, il n'y a pas d'idée de la finalité du texte. Il n'y a pas d'intention de la finalité du texte. Donc arriver à dire qu'on a cette espèce de forme d'anthropisation, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Mais à un moment, il ne faut pas non plus avoir ce décalage-là qui peut être éminemment piégeux. On est sur un principe, par contre, qui va faire un miroir, et un miroir à ce qui sera fréquentiellement le plus récurrent. Donc on est dans cette approche-là. Pourquoi est-ce qu'elle va préférer que vous soyez poli? Bah déjà parce qu'il y a un codage qui fait qu'elle n'a pas le droit de vous expliquer en termes fleuris la réponse que je pourrais faire, par exemple, quand on me fait griller des sardines avant 7h du matin le dimanche, par exemple. Donc ça, on ne l'aura pas. Déjà, vous avez des systèmes de gate, puisqu'il y a des cadres avec tout ce qui va être hate speech, etc. Donc on ne va pas l'employer. Et de deux, sur les bases de données que vous allez avoir, eh bien, en règle générale, on aura quelque chose qui sera plus, peu ou prou policé, plus la limitation. Donc vous allez vous retrouver sur ces éléments-là. Et derrière, vous avez le principe par renforcement. Mais on arrivait à des choses qui pouvaient être très, très drôles sur les premières versions de LLM et lui faire péter les plombs en faisant un principe totalement égotique. Vous lui demandiez « Bonjour, pourquoi est-ce que je devrais t'utiliser, toi, plus qu'un autre ?» Et vous avez une réponse à peu près lambda, pragmatique. « Dis-moi en plus, tu peux faire mieux. » Non, mais t'es sûr, parce que quand même, ton concurrent. Et là, vous faisiez 5 ou 7 itérations. « Je vais devenir maître du monde, c'était Minus et Cortex en grandeur nature. » Donc parce qu'on n'avait pas ce système-là. Est-ce que de facto, elle a un principe qui va... Non, elle est sur une réponse de ce que l'on va avoir. Et quand on lui demande d'être dans de l'hyperlatif, elle va rechercher par nature hyperlatif et vous les recroisez par principe de récurrence et de remontée.
Et en plus, il ne faut pas oublier que pour entraîner nos IA, on a besoin de gros volumes de données. Et puis qu'à un moment donné, il y en a qui ont pensé que de dupliquer les données qu'ils avaient collectées, de créer des données de synthèse, allait améliorer l'IA. Oui, bah écoute, on a tenté avec l'humain et la consanguinité, c'est pas cool en fait. Donc, bienvenue dans les réalités. Et qu'à un moment donné, on devrait aussi se réinterroger sur les effets de nos techniques et de nos pratiques. Et qu'à un moment donné, quand on vient me dire cette IA qui est censée reproduire un outil d'aide à la décision, un processus cognitif, je veux bien, mais je suis tout sous une stat en fait. Donc, c'est un processus cognitif et c'est une aide à la décision, mais de qui, de quoi et quelles données as-tu utilisées et comment as-tu travaillé? Et en fait, à un moment donné, quand quelqu'un doit prendre conseil et qu'il a son comité de conseil d'humains, il connaît ces humains et leur variabilité, leur niveau de fiabilité en fonction de là au moment T, dans quel état sont-ils? Mais en fait, ce manque de transparence qu'on a sur nos IA, quand elle nous fait son conseil et qu'elle nous donne un résultat, puis elle ne nous donne pas une liste de résultats, elle nous donne un résultat. Bah, je dis, super, j'en fais quoi? Et en fait, moi, j'ai des collègues qui, quand je leur dis un truc comme ça, ils vont me faire, OK, so what? So what? Bah, mon IA, des fois, je dis, ouais, OK, so what? Et en fait, bah, elle rebondit pas. Et d'ailleurs, des fois, elle me conseille de faire une omelette aux œufs de brebis parce que c'est plus goûteux. Mais c'est mon IA.
Est-ce que c'est vraiment plus goûteux?
Les œufs de brebis, ben ouais, je pense. Si tu prends les informations sur le fromage de chèvre que tu croises sur des recettes de cuisine, mais ça veut dire en fait qu'elles ne résonnent pas. Mais il y a des gens encore qui pensent que c'est trop magique, ça résonne parce que ben, c'est moins d'efforts. Mais à ne plus faire, on ne sait plus faire, mais je suis surtout plus en capacité de contrôler ce qui va être fait. Et moi, je trouve que quand on reprend le lead, c'est quand même trippant, quoi.
Après, il y a plusieurs choses. Alors, il y a tout le principe des hallucinations avec l'œuf de brebis, où on va avoir de la possibilité d'avoir de l'hallucination de l'IA. Alors, le revers plus positif, ça sera toute la capacité de sérendipité. Donc, ce que l'on appellerait pudiquement le penser hors de la boîte. Donc ça, on va avoir cette possibilité-là. Un point, les systèmes d'aide à la décision, beaucoup ne sont pas des IA. Ça, c'est quand même un gros piège aussi. Le nombre de fois où on va avoir des entreprises qui vous disent « oui, je fais de l'IA », au mieux, on a des algorithmes en cascade à peu près bien fichus. On n'a pas de système d'IA. On va arrêter. Et quand on regarde et quand on rentre un petit peu dedans, on s'aperçoit que dans un pourcentage élevé de cas, on n'en a pas. Par contre, là, on va avoir un effet un petit peu benchmark. Et cet effet-là, on va le retrouver aussi dans l'appellation. Intelligence artificielle, en soi, est un terme éminemment piégeux parce que ça pousse à avoir cette idée qu'on a une approche complètement anthropique d'un système mathématique, cette pensée par l'homme. Donc, on va retrouver des biais qui peuvent être à peu près les mêmes. Hein. Je renverrai au biais des Amazones qui est très connu, mais qui est assez rigolo. Donc, on va avoir ça. Et pour peut-être par rapport à ce que tu disais, et toujours sans rebondir, on va avoir la possibilité sur des IA d'arriver à avoir une explicabilité. C'est ce qui a été déployé notamment par la DARPA, hein, donc l'Agence de l'innovation du DOD, à partir de 2016, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est d'arriver à avoir des systèmes qui puissent être compréhensibles et avec un niveau de transparence et d'explicabilité pour un non-sachant, alors post-hoc, notamment hanté ou autre, avec différentes approches, cette idée étant là. Est-ce que l'on a quand même sur des modèles pour essayer d'aller limiter, alors au-delà de la transparence, mais pour éviter, pour avoir une approche qui soit plus ontologique et plus efficace, c'est de la concaténation de différents modèles où on va aller pluguer différents designs d'IA les uns par rapport aux autres et où on va croiser entre différentes bases de données, y compris des bases de données qui seront maîtrisées en termes de fiabilité, qui pourront quasiment faire un principe de métrique et sur d'autres. Donc en croisant différentes bases de données, dont certaines seront ouvertes, d'autres seront maîtrisées et donc fermées, plus des systèmes avec différents niveaux de couches de design où on va passer sur du classique qui connaît moins du KNN et derrière on va passer sur du SVM, potentiellement derrière on va mettre une couche de bayésien ou plusieurs et là on arrive à avoir une relative limitation ou en tout cas une approche qui serait potentiellement plus globale. Encore une fois, ça dépend de ce que vous allez demander et de ce qu'elle va produire. Là où ça devient intéressant, c'est quand on va être sur des modèles de neurones profonds et où on peut avoir un auto-apprentissage qui techniquement sera un petit peu plus performant, mais où l'explicabilité sera en règle générale post-hoc, et là parfois un peu plus délicate.
Ça m'amène à une question, est-ce que du coup c'est différente, si je comprends bien, configuration des IA, est-ce qu'elles dépendent de l'usage, est-ce que c'est des IA du coup qui sont spécifiques à un usage et que du coup on adapte la façon de les construire en fonction de ça?
Bah, il vaut mieux que l'IA soit adaptée à l'usage parce que effectivement beaucoup d'IA sont plutôt des algorithmes, mais c'est moins bankable de dire que c'est un algorithme. Et là aussi, il y a des questions de représentation, c'est-à-dire que est-ce que l'outil qui sera le plus désiré par l'utilisateur, c'est celui qui va s'appeler intelligence artificielle ou est-ce que c'est celui qui va s'appeler algorithme? Donc là aussi, on retourne sur des représentations sociales des technologies par manque de compétences de ceux qui doivent acheter, de consommateurs. Et donc là aussi, d'où la volonté de régulation, de transparence, et de dire, parce que la réglementation est très claire, elle dit qu'à partir du moment où on va travailler avec des systèmes d'IA, sachant qu'en droit, que ce soit algorithme ou intelligence artificielle, on ne distingue pas, c'est-à-dire que c'est algorithme et intelligence artificielle, c'est qu'il faut que les personnes, les acteurs sur tout le cycle de vie du produit qui devront prendre des décisions par rapport au produit, donc en fait tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'IA doivent maîtriser le fonctionnement de l'IA pour avoir en fait ce côté de décision éclairée, c'est-à-dire d'usage en conscience et de décision en conscience des effets que vont produire en fait l'IA dont on parle, l'algorithme dont on parle. Et en tout cas, il n'y a pas de solution universelle. C'est la solution adaptée à un besoin. Clarifie ton besoin et je te dirai quel est le modèle, quel type de données. Enfin, c'est du sur-mesure, en fait, qui serait après autrement. À chaque fois, on dit, je vais faire des configurations pour personnaliser l'algorithme pour qu'il puisse m'apporter le résultat qui me convient. Mais il y a des types d'IA, il n'y a pas une IA.
Au fond, les gens sont déjà mélangés avec les IA génératives et mélangent ou le LLM ou peu importe comment on veut le nommer. Ou l'IA générale aussi, le AIG, tous ces éléments-là viennent créer énormément de confusion dans la tête des gens. Et un des éléments importants, puis tu le reprends un peu, mais de façon un peu différemment, l'IA ne réfléchit pas, n'a aucune capacité, ce n'est que des chiffres qui circulent. Et ça a été testé dans le texte Python. Ça, c'est très, très drôle qu'il n'est pas capable de compter le nombre de R dans Strawberry. C'est très simple. Il ne sera jamais capable de compter le nombre de R parce qu'il ne voit jamais le mot Strawberry. Il voit juste les tokens qu'il reçoit, qui sont des chiffres. Et basé sur un réseau neuronal, les chiffres vont émaner à quelque chose de l'autre côté. Et c'est là, et c'est un des énormes dangers, puis on le voit. Les gens se font éblouir par l'impression qu'il y a de l'intelligence. Il n'y en a pas. Et là, c'est d'autant plus un grand danger social. Puis on l'a vu avec DeepSea qui au début de cette année, où on nous a mis dans les mains de la population générale un IA réflectif qui on pense, qui réfléchit. Et c'est épeurant quand on le voit aller parce que ça renforce l'idée dans la tête des gens que c'est intelligent quand dans les faits, il ne fait que remâcher un peu, comme tu mentionnais, des plusieurs IA ensemble qui font juste se remâcher pour avoir un résultat et non une vraie réflexion au sens humaine comment on la vit.
Ce qui est assez rigolo, c'est que si on retourne un petit peu dans l'histoire de l'IA et sur ce qui devait être le Global Problem Solver, à la base, c'était ça, le GPS, c'est pour ça qui n'était pas l'idée. Et le principe de base, c'était d'avoir un système informatique basé sur des mathématiques qui puisse résoudre absolument n'importe quel problème. Je veux dire, l'un des quand on regarde les GoFi, donc les Good Old Fashioned AI, on avait tout ce principe-là. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on a des développements qui ont suivi différentes approches. Donc après, on est allé regarder sur la psycho et la cognition, comment est-ce que fonctionnait la prise de décision, comment est-ce qu'on pouvait le voir. On est arrivé sur les machines à émotions type Minsky. Donc, on est arrivé tout ce principe-là. Et derrière, on a eu aussi les influences de la robotique avec toute l'approche des VRA, etc. Donc, en fait, on voit bien qu'on essaye de reproduire un système qui est complexe et qu'on va essayer de trouver différentes approches en partant de quoi ? De ce qu'on connaît, ou du moins ce qu'on croit connaître, vu que ne serait-ce que le mécanisme de fonctionnement des cognitions humaines, on le voit dans nos différents spectres de recherche, est encore un objet de surprise. On a encore quelques années, peut-être pas de financement, mais au moins de recherche devant nous, ce qui est déjà ça. Donc, on peut avoir tout ce système-là, et ça, c'est assez intéressant, parce que de quoi on va partir ? De ce que l'on a, et on va essayer de le transposer de cette façon-là. Et c'est dans cette approche-là que c'était pensé, le principe de l'IA. Et après, on a regardé sur une approche plus mathématique, plus mécaniste, plus humaine, plus cognitiviste, plus psychologique. Donc, on a eu différentes écoles, comme ça, les écoles de Palo Alto, notamment, qui ont été hyper importantes dans la conceptualisation de ce qu'on allait demander avec les problèmes d'IA, avec les problèmes de boucle, le fait qu'on n'ait pas de marche arrière. Donc, on a toute cette approche-là. Donc, c'est un champ qui est absolument passionnant, mais sur lequel, alors je sais que le fantasme, c'est un truc sympa et qui reste encore gratuit, mais il faut peut-être un petit peu limiter la capacité des choses et en tout cas garder à l'esprit que tous ne sont pas bons à être réalisés.
Tu peux rire dans le micro et rebondir, puisque tu as peut-être des rotules de meilleure qualité.
Sur les fantasmes? Non.
Reprenons le volet plus... design thinking, un peu comme ce que tu mentionnais, comment l'AI à ce moment-là, puis on le change complètement de track, comment on peut venir aider les équipes, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur comment on est capable de dépasser nos biais, dans le fond, dans ces éléments-là, pour sortir de la réflexion et d'amener à de l'innovation, mais comment l'AI peut être outil d'innovation pour justement, et de fiction aussi à certains égards, mais comment peut-il nous aider dans ce chemin-là?
Alors, c'est une question très intéressante. Effectivement, donc l'approche de la méthode du design thinking, donc qui est en 5 ou 7 étapes, tout dépend de la méthode sur laquelle on va s'appuyer. Il y a les deux premiers aspects qui sont assez intéressants, c'est cet aspect d'empathie et cet aspect d'idéation que l'on peut retrouver aussi dans le design fiction, sur cet aspect de situation vivée acariante, comme j'ai pu l'expliquer. Et l'IA vient un petit peu perturber, ça a toujours une connotation un petit peu néfaste, mais en tout cas vient modifier ces deux phases, dans le sens où au début, quand on faisait de l'empathie sur quelque chose qu'on connaissait, c'est-à-dire des personas ou sur un utilisateur probable, aujourd'hui on va essayer d'envisager d'autres personas, des personas fictifs, comment ça arrivait sur pas mal de discipline. Et sur la partie idéation, c'est un peu le mécanisme du design fiction. On va se retrouver à décontextualiser notre connaissance. On peut demander à l'IA de générer cette partie de brainstorming pour cette pensée divergente sur un problème. Et on va se retrouver avec des solutions qu'on n'aurait pas envisagées parce que tout simplement, on n'était pas conceptuellement sur cette ligne-là. Par exemple, si je vous demande d'imaginer les vacances, certains vont avoir l'image d'une plage, d'autres d'une montagne, d'autres d'une forêt ou d'autres tout simplement de leur appart. Ça va dépendre de notre schéma qu'on va engager, c'est-à-dire on va, sur un problème, mettre en avant une connaissance. L'IA, elle, va nous proposer quelque chose de totalement différent ou de plus précis ou quelque chose qu'on n'aurait pas envisagé. Et elle va venir un petit peu dynamiser, en tout cas modifier cette idéation. Et je pense que ce sera ni moins bien, ni pire. Ça sera différent et il faudra rebondir sur cette thématique-là. Je pense qu'on peut faire le parallèle avec la créativité collective, finalement. Si là, on reprend l'exemple des vacances, chacun donnait son idée. S'il y en a deux d'entre nous, parmi nous, qui évoquent la plage, on va très certainement partir sur la plage. Donc, on va faire ce choix-là. Et je pense que l'IA nous fait des propositions qu'on est à même ou pas de suivre. On a quand même encore cet aspect humain, comme disait Ingrid, de réflexion sur ce qui nous est proposé.
Peut-être à deux et à quelques allées après. Le premier, c'est que si je vous donne deux choix et que je vous explique qu'ils ont été produits par une capacité de calcul et d'analyse qui supervise la vôtre, en règle générale, très peu de gens, et ça, il y a des recherches là-dessus, vont aller chercher une autre option, c'est-à-dire que vous avez un choix qui est fermé et qu'on va très rarement en sortir. Ce que vous disiez sur l'idéation, c'est ni plus ni moins que la capacité de sérendipité que j'évoquais préalablement et qui va avoir sa limite en fonction de la base de données que vous avez. C'est-à-dire que si j'injecte uniquement des photos de plage que je vais retrouver sur le principe, eh bien vous allez vous retrouver sur zéro créativité, mais au contraire un lissage et un effet plateau qui sera particulièrement intéressant. Donc tout dépend de comment est-ce qu'on va la mettre en place, comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre et la capacité que l'on aura à ne pas être forcément conformiste mais à en tout cas ne pas s'interdire d'avoir une option alternative, même si celle-ci est vendue comme étant la plus raisonnable, la plus objectivée, potentiellement, ou optimisée. Donc, c'est là où, encore une fois, il faut avoir cette connaissance-là. Je suis désolée, hein, mais quand Waze vous propose deux itinéraires, il y en a combien qui choisissent un troisième qui n'est pas sur la plage ?
Tu parles de quand il te propose de contourner l'embouteillage qui est en fait le resto routier avec les camions à l'arrêt parce qu'ils sont en train de manger. C'est pour ça que c'est très intéressant de savoir et de prendre conscience en fait de comment fonctionnent les technologies et de recroiser les informations. C'est-à-dire qu'il y a ce que dit la techno, mais à un moment donné, quand on connaît un trajet et quand on sait aussi comment sont paramétrées les technologies, tu parlais de Waze, mais quand on parle de Waze, du GPS et tout, il ne faut pas oublier aussi que ces outils-là qui doivent nous aider nous coupent aussi de l'environnement. Et il faut savoir que dans le code de la route, le conducteur doit être censé être encore connecté avec son environnement. Et il y a quand même une capacité de captation de l'attention du conducteur sur l'écran, parce que je ne connais pas du tout la zone où je suis. Donc, je vais me concentrer sur mon GPS au lieu de me concentrer sur les panneaux indicateurs et la signalétique de la route. Et en même temps, tant qu'à faire, pour encore plus me couper de l'environnement extérieur, en plus, je vais avoir une voix qui va me dire où je dois aller pour que je réfléchisse encore moins. Mais est-elle si bien paramétrée ? Est-ce qu'elle a une précision ultra précise ou elle est à 50 mètres du point réel où je suis dans sa représentation du monde, mon IA ?
Pour repartir, mon exemple sur Waze, c'était pas le mieux choisi et c'était pas le meilleur pour plein de raisons. Hein. D'ailleurs, en rentrant notamment dans la conception algorithmique et de pourquoi ils vous les proposent, notamment pour garder une rationalisation dans le temps arrivé. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais pour un système, on va vous faire Netflix, hein, par exemple, ça marche vachement bien. Sur vos trois propositions, à quel moment vous allez en choisir une autre ? Là, on va être dessus. Un des intérêts, ça peut être aussi de mettre en opposition des systèmes qui aient des designs qui soient différents et qui, de facto, n'arrivent pas forcément à la même proposition. Donc ça peut être une des options qu'on peut retrouver. Et par rapport à comment l'humain va interagir, moi je renverrais à deux cas théoriques. On est des académiques, il faut bien le faire un peu de temps en temps. Mais il y a tout ce qui va être les principes du path dependency, donc à la dépendance au sentier et comment est-ce qu'on va fonctionner, et les théories de l'enactment, où on va avoir une perception de l'environnement qui est induite notamment par la technologie. Je coupe un peu dans les courbes et dans les virages. Mais on a ces cadres-là qui font dans quelle mesure est-ce que la technologie, l'usage de la technologie et ce que l'on va produire par la technologie va impacter sur la perception que l'on aura de l'environnement et donc sur sa construction à venir.
Oui, et d'ailleurs, on était avec Isabelle au WISG, au colloque sécurité globale du SGDSN et de l'ANR la semaine dernière. Et c'était assez drôle de voir certains chercheurs en cybersécurité, plutôt branche informatique, dans les domaines d'expertise, qui nous expliquait à quel point, par rapport à Netflix ou par rapport à Google et toutes ces choses-là, de temps en temps, prenaient le temps de faire de la désinformation à leur échelle pour garder cette liberté de choix dans les propositions que font les technologies pour éviter de tomber sur du renforcement de leurs préférences et pouvoir avoir un effet de surprise, de proposition qui aurait été quelque chose de divergent par rapport à leurs habitudes. Et voilà, c'était, ils s'astreignaient quand même de temps en temps à venir casser le paramétrage et la captation de leurs habitudes et de leurs véritables préférences dans des comportements où ils forçaient à aller sur d'autres choses pour que finalement la technologie n'identifie pas quelles étaient leurs réelles préférences.
Il y a ça, puis là, les exemples de Netflix et de Way sont assez intéressants aussi, puis Google à certains égards. Comment on peut savoir que ces modèles-là ne sont pas faits, ne sont pas biaisés d'avance pour nous mener vers ça? Parce que c'est quand même des compagnies commerciales qui sont là pour faire de l'argent, sont là pour survivre, pour aller plus longtemps. Donc, comment on peut arriver, soit par un cadre légal, soit par un peu importe la façon d'assurer l'ultime neutralité, qu'il n'y a pas un biais. Puis là, c'était ce matin, il était mentionné que certains y ont pas déjà de voir la propagande russe à l'intérieur de celle-ci se propager. Fait qu'on a déjà le problème de la propagande qui vient polluer ça. En plus, on a les intérêts commerciaux de différents. Et dans un contexte où on a une IA à l'heure actuelle qui est entraînée sur des données pas d'extrême droite, menée par quelqu'un qui clairement a fait un virage à droite il n'y a pas si longtemps que ça, un contexte a changé. Comment on peut se fier à ça, que ça ne nous amènera pas à radicaliser encore plus, notamment, ou comment on peut aller dans ces choses-là? Là, je vous ai fait mal au cerveau, je pense.
Oui, mais sur la question des influences et sur les comportements, et il y a certes la technologie, mais il y a à un moment donné ce côté de qu'est-ce que le concepteur de la technologie a consciemment paramétré sur la question de la responsabilité pour après pouvoir jouer sur comment j'utilise les technos et qui est responsable de quoi. Enfin, aujourd'hui, on est tellement déjà pas clair sur la question des responsabilités des acteurs. Parce qu'il y a aussi la question de la personnalité morale de la techno, hein, du robot, de l'IA, de tout ça. Enfin, pour le moment, l'IA n'a pas de compte bancaire, donc si jamais vous posez du tort, je ne sais pas comment elle va vous financer. Hein. Après, c'est vraiment la question de pour moi, je refais le lien avec ce que disait Isabelle sur l'intention et le conscient. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'interroge aussi sur la question de la formation initiale de différents métiers, parce que tant en sciences humaines et sociales, on pourrait mieux utiliser les technologies pour nous aider dans notre quotidien si on maîtrisait mieux les technologies, si on comprenait mieux aussi la valeur des données, comment les optimiser pour pouvoir aussi avoir des résultats plus fructueux. Enfin, donc les questions de données, voilà. En même temps, on pourrait respecter les droits des uns et des autres beaucoup plus facilement si on savait vraiment comment sont gérées et la gestion des données et le droit de la donnée. Après, il y a aussi les sciences de l'ingénieur. Je pense qu'eux, ils comprennent bien le fonctionnement de la technologie, mais ils comprennent encore beaucoup moins le fonctionnement de la société et le fonctionnement de l'humain. Donc, ils n'ont pas conscience des conséquences de leur paramétrage. Et je pense que c'est ça le plus effrayant, en fait. C'est ne pas avoir conscience de ce que je fais et des effets de ce que je suis en train de produire. Et donc, en fait, pour moi, c'est plutôt dans maintenant, puisqu'on a une évolution sociétale, on a une société qui se numérise. Bah, comment, en fait, si je dois catégoriser les études, bah, les sciences humaines et sociales d'un côté et les sciences de l'ingénieur, bah, c'est comment, en fait, là aussi, il y a une petite fusion qui serait de la culture générale et comment, en fait, il y a un peu plus de sciences de l'ingénieur en sciences humaines et sociales et un peu plus de sciences humaines et sociales en sciences de l'ingénieur. Et je pense que déjà, on résoudrait quelques problèmes de satisfaction de besoins, d'expression de besoins, parce que déjà, l'utilisateur saurait exprimer un besoin pour qu'un ingénieur sache l'exploiter.
Parce que des fois, en fait, pour l'ingénieur, c'est évident, pour l'utilisateur, c'est évident, mais les gars, vous pourriez partager vos évidences, parce que là, en fait, personne n'a formulé les choses.
On n'est pas allé très loin, effectivement, le problème, puis je vais aller un peu plus loin, puis je ne sais pas si on est capable de répondre, mais au niveau du problème d'anthropomorphisme qu'on a, l'AI est quand même très présent. Sur charge cognitive, tous ces éléments-là qui viennent influencer l'individu, comment l'AI revient vers nous pour nous brusquer. Il y a eu des cas de suicide qui ont été liés à ce genre de choses-là. Comment on peut voir cette espèce de projection qu'on a par rapport à ça? Je ne sais pas à quel point vous êtes. C'est un peu vos axes de recherche pour les jeunes.
C'est vrai qu'avec Isabelle, en discutant l'autre jour, quand on regardait que l'IA devait être robuste, qu'elle devait être transparente, qu'elle devait être loyale, on disait, bah, elle est bonne à marier, quoi, en fait. Elle est super, c'est l'homme parfait sur le papier. Mais finalement, non. Est-ce qu'en fait, on nous vend quelque chose qui est tout beau et on, en fait, on nie et on n'est pas transparent sur les défauts. Sauf que le charme est aussi dans les défauts. Et parce qu'en fait, c'est ma grand-mère qui me disait, tu sais que tu es amoureuse quand tu as conscience des défauts de l'autre et que tu restes avec. Bah, je pense que je suis satisfaite de mon IA quand j'ai conscience de ses qualités et de ses défauts et que je l'utilise toujours.
Alors là-dessus, c'est vrai que on parle beaucoup d'IA générale et de, enfin, et même, enfin, je trouve qu'avec les IA génératives aujourd'hui, on a tendance à avoir plutôt, enfin, une majorité, je pense, de personnes qui utilisent l'IA vont se focaliser sur un outil et l'utiliser pour tout faire, parce qu'il y en a l'impression qu'il peut tout faire. Et en fait, je pense que l'approche du coup sur les usages et avoir une IA qui soit spécialisée en fonction de ce dont j'ai besoin, c'est beaucoup plus pertinent parce que ça va éviter ce genre d'écueil où on va avoir des réponses qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir conscience de l'intégralité du fonctionnement d'une IA et du coup d'adapter notre façon d'échanger avec elle pour avoir les résultats qu'on souhaite que d'avoir un modèle d'IA qui est spécifique à ce dont j'ai besoin et qui du coup va potentiellement dans sa conception m'accompagner sur la façon dont je veux qu'elle me réponde et de la façon dont je dois m'adresser à elle. Est-ce que je dois lui poser une question? Est-ce que je dois formuler une phrase? Enfin, là, je parle des IA génératives puisque c'est ce que je connais. Le reste, c'est pas trop mon domaine. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur comment réfléchir à remettre l'humain avec la prise de conscience de cette explicabilité de l'IA, c'est-à-dire comment elle fonctionne. Qu'est-ce que c'est l'IA et moi, comment elle peut m'être bénéfique, comment elle peut me servir, mais aussi ses défauts, comme tu disais, je suis totalement d'accord avec ce sujet-là. Et du coup, d'être sur une approche beaucoup plus centrée sur les usages et quelque chose de plus spécifique. Que là, un délire un peu qui part dans tous les sens.
Il ne faut pas oublier aussi que des fois, quand on demande aux utilisateurs et qu'on leur fait bien exprimer le besoin et qu'on travaille bien le besoin, on se rend compte aussi que toutes les surspécifications qu'on a mises n'étaient pas utiles parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins. C'est du plus. Et c'est du plus. Et puis maintenant, si en plus on regarde les techs aujourd'hui où on s'interroge aussi sur l'impact environnemental des technos, on parle des IA frugales et là aussi on revient à ce que disait Christine sur à un moment donné on vous parle d'IA mais c'est un algorithme et à un moment donné on n'a pas besoin en fait de toujours plus, c'est-à-dire que notre besoin, et ça aussi c'est en comprenant le fonctionnement des technologies qu'on sait aussi mieux choisir la technologie qui nous convient et la surspécification peut être vraiment contre-productive et en fait venir nuire aux résultats qu'on attendait. Et là aussi, c'est des cultures partagées, c'est une évolution culturelle, enfin, c'est de l'éducation, c'est de la prise de conscience pour l'adaptation des comportements. Et c'est en ça où le côté raisonnable, sur le côté acceptable, il y a des tabous aujourd'hui parce que c'est allé à l'encontre aussi du marketing. De certains médias qui, eux, c'est un gros sujet, moi, en santé, où des fois, j'arrive et puis on me vend un dispositif médical. Parce que sur le plan du coût, pour les marketeurs. J'ai dit, mais ouais, mais en fait, juste les gars, vous, pour votre push de marketing et votre aspect com, vous venez de me flinguer toute une stratégie de sécurité numérique d'un objet connecté de santé. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que pour votre effet market, paillette, dispositif médical, pour pouvoir vendre plus cher un produit, mais vous avez aussi rajouté des coûts de certification, parce qu'un dispositif médical doit être certifié. Donc finalement, vous rajoutez des coûts de production. Vous rajoutez aussi des coûts RH, parce que monter ces dossiers de certification, ça prend un certain temps. Donc à un moment donné, juste soyez raisonnable. Et là, pour moi, en fait, ce qui est un peu délirant, c'est que ces sujets qui touchent en fait à la responsabilité juridique et à la dépense, bah, à un moment donné, la personne, parce que le droit est très clair, hein, l'autorité qui a la responsabilité juridique, c'est la gouvernance. C'est pas le RSSI, c'est pas l'ingénieur, c'est pas la DSI. Et en fait, dans une organisation, le DSI, le RSSI sont des traitants. Et le traitant est un salarié qui n'a pas la responsabilité juridique pour le compte de l'organisation. Et donc, par conséquent, lui, il est dans l'erreur humaine. La faute, elle est organisationnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le pouvoir de direction, il faut que la gouvernance organisationnelle se réapproprie ce sujet, donc se forme, d'où le droit qui dit qu'il est nécessaire que pour prendre des décisions, il faut maîtriser le sujet, mais pour prendre la décision, il faut peut-être aussi associer des fois, pas le traitant, mais celui qui a la responsabilité juridique, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, la question de la responsabilité juridique dans le monde de la tech, vu que ça va toucher en effet sur la sécurité, puisque ça touche à la sécurité numérique, pas oublier que les obligations de sécurité sont des obligations de diligence, et qui dit diligence dit que si je n'ai pas satisfait à mon obligation, je suis négligent. Si je suis négligent, moi, dirigeant, parce que je ne savais pas, parce que j'ai laissé un traitant décider à ma place, oui, mais en attendant, juridiquement, c'est toi qui vas répondre à titre personnel. Parce que pour un dirigeant, c'est une faute de gestion.
Je trouve ça intéressant, tu l'amènes comme ça. Puis, il y a des points importants dans ce que tu dis qui m'ont marqué. Juste un peu là.
Parce que tu es dirigeant?
Non, je ne suis pas un dirigeant, mais je trouve ça intéressant parce que puis, l'énoncé que tu fais essentiellement, c'est le problème que je trouve avec beaucoup de startups, notamment en cyber, c'est que c'est des solutions qui cherchent un problème. À l'heure actuelle, les compagnies cherchent des problèmes à régler avec leur IA, mais ils sont comme dans un élément inverse où normalement on a un problème comme c'est réglé. Et c'est l'innovation frugale, c'est souvent ça justement que tu m'as énoncé hier, et j'ai trouvé ça très plaisant comme approche parce que la vraie innovation se situe à cet endroit-là. C'est là aussi que je vais rebondir parce que ce qui a été mentionné en termes de thinking fiction, design fiction, il n'y a pas de notion de contrainte. C'est ça que là, je veux peut-être voir les deux comme agence. C'est que sans contrainte, on n'est pas capable d'innover. Il faut qu'il y ait contrainte pour qu'il y ait innovation, d'où la frugalité dans le contexte hier. Fait qu'on est capable d'émerger avec quelque chose parce qu'on a des contraintes, donc on veut les dépasser, on va aller plus loin. J'aime ça voir un peu par rapport à comment la fiction, les fictions peuvent s'intégrer là-dedans. Tu devrais comme vous rebondir.
Alors, moi, je suis une méthode de design fiction, qui est donc une méthode qui utilise les récits de science-fiction et un objet diégétique, un objet fictif qui vient faire consolider ce récit et sur lequel on va pouvoir mettre des participants dans une situation, vivre une situation qu'ils ne connaissent pas, une situation fictionnelle. Donc, le design fiction est de nature une méthode contrainte, puisque je contrains les personnes à quitter leur schéma réel, je les contrains à s'éloigner temporairement, spatialement, conceptuellement. Donc, de ce fait, la contrainte est induite. En psychologie, on a des travaux, dont les travaux de Nathalie Bonnardel, qui portent sur ces contraintes induites et les contraintes construites. Induites, c'est sur la planète Mars et je te demande de créer un resto avec tel et tel personnage. La contrainte construite, c'est celle que je vais moi-même me mettre. Moi, je veux un resto bio. Voilà, on est sur Mars, mais je vais vouloir un resto bio. mais le bio, ça va exister sur Mars. Voilà, c'est ça un énergie pure. On va venir construire des contraintes déjà proposées, et on va s'interroger. Et on va s'interroger sur est-ce que le bio, ça existera sur Mars. Finalement, est-ce que nous avons encore du bio, est-ce qu'on aura besoin même de manger, finalement. Est-ce qu'on aura besoin d'un resto, voilà. Ça va venir interroger tout un tas de concepts. De ce fait, la contrainte y est, elle a induite dans l'édifice.
Bah, exactement, parce que la contrainte existe dans la méthode, mais elle est perçue de manière positive, comme l'erreur en sûreté, dans la maîtrise des situations à risque, la maîtrise des risques en situation dynamique, l'erreur est vue comme une expérience qui permet d'améliorer la pratique. Et Drift transforme aussi une perception de contrainte de cyber en opportunité, en fait, à créer la confiance et donc à faciliter les usages et à développer les usages. Et c'est un truc tout con, hein, mais en fait, de changer la posture et le regard sur le sujet, c'est-à-dire que de ne pas suivre le flux et la masse et de ne pas être le mouton de la pensée dominante et de dire bah, ce concept, contrainte, erreur, risque cyber, finalement, c'est une opportunité de m'améliorer. C'est une opportunité de grandir. Et bien déjà, d'un seul coup, quand les gens perçoivent et prennent la mécanique, elle est enclenchée. Mais en fait, on a un effet. Puis alors, surtout vu la conjoncture en ce moment, là, c'est un effet euphorisant. Et sur les dernières interventions de Drift qu'on a pu faire en public, quand on présentait le projet et le programme, les gens repartaient reboostés. Ils nous disaient que ça a été une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas expliqué qu'ils étaient faibles, qu'ils étaient mauvais, qu'ils ne maîtrisaient pas, parce qu'on disait on va capitaliser sur ce que vous connaissez, on va capitaliser sur vos atouts. Vous êtes les premiers à me dire que j'ai un atout. Vous êtes le premier à me dire que je maîtrise. Mais en fait, on a surtout capté leur attention et ils nous ont écoutés. Et quand on a apporté le message, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le risque numérique et dans SecNum, à un moment donné, la réponse n'est pas entièrement technique, hein, elle est aussi humaine. La fiabilité humaine, c'est quelque chose. Ce n'est pas un sujet à contourner, parce qu'il ne faut pas oublier que l'humain est aussi un détecteur d'incidents, un détecteur de risques, et qu'à un moment donné, lui, comme il est vachement plus adaptable que la techno et que toutes vos IA de détection de risque et de toutes vos procédures techniques que vous aurez mis en place, en fait, à un moment donné, bah, pour compléter vos procédures techniques que vous aurez mis en place, qui ne sont pas parfaites, puisqu'on vous dira que le risque zéro n'existe pas, bah, ces mesures techniques doivent être complétées par des mesures humaines, par des mesures organisationnelles. Et c'est là qu'on arrivera à un risque résiduel minime. C'est en jouant plusieurs cartes. Ce n'est pas en étant sur juste voilà, je fais un focus et je veux que ça et que ce sera mon unique solution. Non, non, parce que alors là, c'est du pain béni pour quelqu'un de malveillant, parce qu'il va pouvoir passer par toutes les autres portes.
Notamment, puis ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est la transformation qu'il va falloir qu'on change. Donc, changer le paradigme à l'heure actuelle, c'est qu'on est très. Les technologies vont venir sauver tout. C'est l'humain qui va venir sauver tout. Et c'est à ce moment-là, c'est intéressant. Mais comment on est capable de rebasculer?
L'humain seul, aujourd'hui, vu l'évolution de la société, ça va être complexe. Et les technologies sont aussi là pour lui faciliter. Donc, à un moment donné, c'est vraiment cette interaction humain et système qu'il faut travailler, parce que c'est cette complémentarité qu'il faut jouer. Pourquoi se priver de l'avantage et de ce que peut nous apporter une technologie? Parce qu'il faut pas, elles sont pas méchantes. Moi, je vois ce qu'elles produisent en santé et il y a des évolutions. Et bah, merci, Dieu merci, elles sont là. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont soignés qui ne l'auraient jamais été par le passé. Donc, à un moment donné, il ne faut pas refuser la technologie. Il faut pas stopper. D'ailleurs, c'est là aussi où le droit, tout le monde pense que le droit interdit. Il dit, attendez, non, il y a aussi des droits et il y a des spécificités d'ailleurs pour le monde de la recherche, pour justement continuer à faire avancer le monde de la recherche à plus de liberté que les industriels. Pourquoi? Parce que la recherche, elle n'a pas des fins d'usage commerciaux et de marketing et compagnie. une entreprise, une orga, un producteur, en fait, les fournisseurs, les concepteurs de techno, eux, il y a un enjeu commercial. Donc, à un moment donné, il y a aussi le côté de je vais te survendre, faire mon vendeur d'automobile, alors que le chercheur, lui, de ce côté-là, lui, il doit quand même, c'est autre chose. D'où la liberté un peu plus grande du chercheur. D'où, d'ailleurs, j'encourage les entreprises à soutenir la recherche et les chercheurs.
Non, mais parce que oui, c'est un peu un drame.
Après, ça pose un peu des questions. La distinction intention des entreprises, intention des chercheurs, je pense qu'elle est extrêmement importante. C'est vrai, il n'y a pas l'aspect financier dans le cas des chercheurs. Et encore aujourd'hui, quand on voit à quel point les chercheurs sont impliqués dans les recherches de financement et qui doivent parfois s'aligner aussi à des entreprises, il y a aussi toute la question. Pour moi, ces débats soulèvent une question éthique fondamentale de, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que notre objectif, c'est vraiment de maintenir une société qui fonctionne aujourd'hui sur le fait de faire du marketing et de vendre des IA très chères pour gagner de l'argent? Ou est-ce que c'est de réfléchir et de pousser la recherche, même si elle semble, à un moment donné, ne pas donner les fruits escomptés, parce que, en fait, des fois, il y a des innovations qui mettent énormément de temps à être, apporter des bénéfices à la société, qui ont accepté aussi de soutenir des projets qui peuvent, sur le moment, paraître plus...
Je vais te dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, parce que je ne vais pas reprocher aux entreprises d'utiliser les outils du marketing, sachant que quand je regarde l'humain, comment il se comporte sur les sites de rencontres, et en fait, il n'y a que des Brad Pitt si on lit les sites de rencontres, et quand on lit les CV, j'ai que des moutons à cinq pattes si je lis les CV. Donc, à un moment donné, voilà. Après, quand on voit les entreprises qui recrutent par des intelligences artificielles, parce que pour aider au tri des candidats, le candidat qui sait lire l'annonce va savoir rédiger son CV pour pouvoir être sélectionné. Celui qui ne sait pas lire, donc en fait, ça montre bien que l'humain est adaptatif et va pouvoir contourner la techno. Donc, c'est là aussi où je dis qu'on ne peut pas se focaliser que sur la techno. D'ailleurs, aussi, les SIRH de recrutement, le problème, c'est la détection du mouton à cinq pattes et de ce profil atypique qui, finalement, dans l'orga, aurait été une vraie ressource. Et s'ils sont focalisés que sur des SIRH, ils vont les perdre, ces ressources et ces talents qui iront à la concurrence. Donc, c'est bien pour ça que je dis que c'est la complémentarité qu'il faut jouer, qu'il faut soutenir l'évolution et le soutien à l'évolution des technologies, parce que ce serait dommage de rester sur nos acquis, parce que de toute façon, tant que la techno peut nous aider, mais c'est-à-dire c'est cette coopération équilibrée humain et système qu'il faut trouver. Mais je suis désolée, ça ne se trouve qu'en utilisant.
Oui, c'est un peu difficile. Puis un peu ce que tu mentionnes, c'est ce qu'on appelle chez l'humain le sixième sens. On espère que la machine puisse un jour imiter le sixième sens humain. Notre capacité à prendre une décision avec un nombre limité d'informations où on est contraint dans ces éléments-là. Donc, ça, je trouve ça très troublant comme situation parce que je n'ai pas l'impression que la machine va être un jour capable de nous amener dans cette direction-là. Puis, reposons un peu, puis qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette volonté-là de vouloir refaire l'humain dans la machine, remplacer l'humain par la machine, comme en industriel. En fait, c'est comme le rêve industriel qui se fait, puis c'est pour ça que je comprends aussi l'angoisse des Européens face à l'intelligence artificielle, parce qu'ils voient comme la révolution industrielle, vous allez remplacer des emplois par des machines. Mais comme les Japonais, autres voient comme la capacité, puis j'ai bien aimé cet exemple-là, que les Japonais perçoivent l'arrivée de la robotique comme étant un soutien parce qu'eux ont une sont vieillissantes avec aucune relève. Eux c'est la continuité, fait que c'est pas le même regard que sur la même technologie. Et donc, à quel point on est capable, parce que moi, je pense pas que le AI va remplacer l'humain, je penserais pas de mon vivant, mais faites-moi mentir, ça va peut-être arriver. C'est cette capacité-là, c'est ce raisonnement fin-là qu'on développe avec l'expérience aussi. Puis c'est ça aussi, c'est quand on sort, mais désolé, mais on commence, on n'a pas d'expérience. Il y a des choses qui ne se font qu'avec l'expérience. Quand j'avais 22 ans, j'étais fâché de la vie parce que j'avais la connaissance, pas l'expérience. J'étais un AI un peu fou. Et avec le temps, j'ai acquis l'expérience. Donc, cette intuition-là qui est née ne se fait qu'à travers l'expérience.
parce que c'est pas une intuition, c'est une expérience. C'est que tu capitalises sur du vécu. Mais en fait, je dirais que l'humain n'a pas à s'excuser d'être imparfait, mais d'être humain. Comme la technologie n'est pas parfaite, il faut accepter qu'elle ne soit pas parfaite et il faut arrêter de nous vendre du parfait. Et en fait, c'est là où, pour moi, la technologie peut venir compléter les imperfections de l'humain, parce que l'humain, en plus, il a une imperfection qui est variable en fonction du jour, parce que de l'heure, par rapport à la charge cognitive, par rapport à ce qui se passe et tout. C'est ce qui fait sa richesse, d'ailleurs. Et la technologie, suivant comment elle va être conçue, on va dire qu'elle, elle va pouvoir reproduire. Il y en a qui sont là pour ça, qui reproduisent, qui sont à l'identique toute la journée. Et elle va être, je la mets en route et elle va me reproduire la même chose et elle va avoir le même niveau de fiabilité sur toute la journée. Mais j'en ai d'autres, plus je vais les utiliser, plus je vais rentrer de la donnée nouvelle et plus elles vont devenir foireuses. Donc là aussi, mais comme quand je fais à un moment donné de la désinformation et de l'influence sur des personnes, plus je vais leur mettre de l'information toxique et plus après leurs croyances et leurs représentations vont être biaisées et ils vont prendre des décisions toutes foireuses. Après, des fois, ils deviennent chefs d'État. Mais...
Ouais, ça n'a pas de contrôle là-dessus. Ça va boucler sur ces belles paroles. On termine là-dessus. Je vous remercie énormément d'avoir participé au podcast. Merci pour l'immense foule en délire qui nous a soutenus. Et encore merci m'avoir accueilli dans cet événement-là. Ben, merci énormément.
C'est un grand plaisir. Merci à toi. Merci. We're gonna